إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on va donc voir ce soir, inshallah ta'ala, la première des quatre règles sur lesquelles le Cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, a attiré notre attention. Et comme on a dit, ces règles, elles sont d'une grande importance. Et celui qui les comprend bien, incha'Allah ta'ala, il comprendra alors la différence entre le shirk et le tawhid, et la différence entre la religion des polythéistes et la religion des monothéistes musulmans. Le shirk, rahimahullah ta'ala, il a donc dit dans cette première règle, Al-qa'idatu l'oula, an ta'alama anna al-kuffar, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. La première règle, c'est que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a combattu, ils reconnaissaient qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui gère toutes choses et que cela ne les a pas fait entrer en islam. Ceci est donc la première règle que le Cheikh rahimahullah ta'ala nous expose dans cette petite épître. C'est que tu saches que les mécréants vers lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils reconnaissaient tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur, celui qui administre tout dans cet univers, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Cependant, le fait de reconnaître cela, de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne les a pas fait entrer en islam. Et ceci nous prouve que ce qui est voulu par le tawhid, ce n'est pas simplement le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le shirk, le polythéisme, il n'a pas lieu dans la seigneurie seulement. Au contraire, il n'y a personne qui a fait du polythéisme dans la seigneurie si ce n'est un certain nombre de cas isolés parmi la création. Mais sinon, de manière générale, l'ensemble des communautés vers qui les prophètes alayhimu salatu wassalam ont été envoyés reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort et celui qui administre tout dans cet univers. Et ceci ne les a pas fait entrer en islam, malgré qu'ils reconnaissaient ces choses-là. Et quelle est la preuve qu'ils reconnaissaient cela? Le Cheikh rahimahullah ta'ala, comme à son habitude dans l'ensemble de ses livres, il ne mentionne pas une chose sans en citer sa preuve. Soit du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il nous a tout d'abord mentionné cet élément qui est connu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens vers qui il a été envoyé reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Mais il va nous mentionner en plus de cela une preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet, qui est le verset 31 de surat Yunus. Et il a dit, rahimahullah, « Wa dalil » est la preuve. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront certes, c'est Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Il y a dans ce verset la preuve que les polythéistes, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, reconnaissez la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de nombreux versets prouvant cela dans le livre d'Allah. On peut citer à titre d'exemple le verset 87 de sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ » Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement « C'est Allah ». Et également Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 61 de la sourate Al-Ankabut « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَ اللَّهُ » Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune ?» Ils diront très certainement « C'est Allah ». Donc les polythéistes, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort, et celui qui administre tout dans cet univers. Donc, ce qui est voulu par le tawhid, et ce qui est voulu par l'unicité, ce n'est pas seulement de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent nombre de personnes parmi les gens de l'innovation et des passions. Et ceci est présent dans nombre de leurs ouvrages. Lorsqu'ils expliquent le tawhid, ils disent « C'est le fait de reconnaître qu'Allah est le seul à avoir créé cet univers, qu'Allah est le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie et le seul à donner la mort. » Ils ne sortent pas du tawhid al-rububiyya. Ils ne sortent pas de l'unicité dans la seigneurie. Alors que ce tawhid, le tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, ce n'est pas par celui-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers alayhim salatu wassalam. Et le fait de reconnaître cela ne profite en rien à la personne, car ceci était accepté par les polythéistes. Les polythéistes de Quraysh, vers qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et ceci ne les a pas fait sortir de la mécréance. Et ce ne les a pas fait entrer en islam. Donc, considérer que le tawhid est simplement le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est une très grave erreur. Et de cela, leur explication de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Lorsque tu leur demandes à ces gens-là, quel est le sens de la ilaha illallah ? Ils vont te dire, il n'y a pas de seigneur en dehors d'Allah, ou il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, ou encore il n'y a personne qui n'est capable de créer en dehors d'Allah. Et toutes ces explications sont des explications erronées de la parole du tawhid. En effet, le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Le message avec lequel est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et auquel il a appelé son peuple, le peuple de Quraysh, ainsi que toute l'humanité, consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et celui qui pense qu'il suffit de reconnaître qu'Allah est le créateur de toutes choses, alors sa croyance ne dépasse pas la croyance des mécréants de Quraysh, comme Abu Jahl ou encore Abu Lahab. Donc, ce que l'on trouve aujourd'hui parmi les gens qui prétendent être cultivés et qui pensent qu'il suffit pour entrer en islam de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dans leurs écrits n'abordent en aucun cas l'unicité dans l'adoration, alors ils ont fait une erreur gravissime concernant le tawhid. Et ils pensent que le shirk, c'est d'avoir la conviction qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceci n'est pas le sens du shirk. Même Abu Jahl, même Abu Lahab, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, comme on l'a vu à travers les versets que l'on a cités. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il a voulu à travers cette règle réfuter la pensée de ceux qui prétendent que le polythéisme, le shirk, se limite au polythéisme dans la seigneurie. Et il a voulu réfuter également la pensée de ceux qui prétendaient, parmi les gens de son époque, qu'ils étaient monothéistes en disant simplement « Allah est celui qui nous a créés, qui nous accorde notre subsistance, qui nous donne la vie, qui nous donnera la mort. » Et ils pensaient que reconnaître cela était suffisant pour être monothéiste. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc clarifié à travers cette règle très importante que les mécréants de Quraysh reconnaissaient l'ensemble de ces choses-là. Malgré cela, ceci ne leur a point été profitable, car ils n'ont pas fait ce que nécessite l'unicité dans la Seigneurie, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. En effet, celui qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur, son pourvoyeur, celui qui lui donne la vie et la mort, et celui qui administre tout dans cet univers, qu'est-ce que cela nécessite de lui? Qu'est-ce que cela exige de lui? Cela nécessite qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, car nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est en droit d'être adoré. Et s'il suffisait, pour être musulman et pour être monothéiste, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le peuple de Quraysh, qui ne sont pas entrés en islam, comme étant mécréants, lorsqu'il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qul, ya ayyuhal kafiroun, dis, ô vous les mécréants », alors qu'il reconnaissait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 106 de la sourate Yusuf, « Wa ma yu'minu aktharuhum billahi » illa wa hum mushrikun. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Certains parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, ont expliqué ce verset en disant que lorsqu'on interrogeait les mécréants de Quraysh qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah qui les a créés. Et malgré cela, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc expliqué que le sens de la foi ici dans ce verset, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire ne reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire des associés dans l'adoration. Ceci est donc la première règle que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnée dans cet épître. Et on va résumer ici 5 bénéfices que l'on tire de cette règle. Le premier bénéfice que l'on tire de cette règle, c'est que le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie seulement n'est pas suffisant pour entrer en islam. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de cette règle, il y a le fait que l'unicité dans la seigneurie, ce n'est pas cette forme d'unicité qui fait la différence entre les croyants et les mécréants, entre les monothéistes et les polythéistes. Car l'ensemble des gens reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est quelques cas isolés parmi la création. Mais ce qui fait la différence entre les croyants et les mécréants, entre les muwahidines et les mushrikines, les monothéistes et les polythéistes, c'est l'unicité dans l'adoration. Tawhid ou l'ibada, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de cette règle, il y a le fait que les messagers, alayhim salatu wa salam, ils n'ont pas été envoyés à leur communauté pour appeler à l'unicité dans la seigneurie. En effet, leur communauté reconnaissait l'unicité dans la seigneurie. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, à l'exception de certains cas isolés parmi la création, comme c'est le cas de Pharaon, par exemple, qui par orgueil rejetait même la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de cette règle, il y a le fait que l'unicité dans la seigneurie est une des preuves de l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses, celui qui administre tout dans cet univers, ceci est une preuve qu'il est le seul en droit d'être adoré, comme on l'a vu dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de cette règle, il y a le fait que celui qui reconnaît l'unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il lui incombe et il lui est obligatoire de reconnaître et d'accepter l'unicité dans l'adoration et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est la finalité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité. Il leur a tout d'abord rappelé certains actes liés à sa seigneurie. Dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre. Qui détient l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Et qui administre tout. Ils diront Allah. Faqul afala tattaqoon. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas. C'est-à-dire, puisque vous avez connaissance
que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre tout, alors ne le craignez-vous donc pas, c'est-à-dire délaissez l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et revenez à l'unicité et à la vérité. Ne le craignez-vous donc pas, c'est-à-dire pourquoi lui donnez-vous des associés? N'allez-vous pas cesser de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé, qui vous accorde votre subsistance, qui vous a donné l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et que c'est lui qui administre tout dans cet univers. Donc quiconque reconnaît cela, il lui incombe et il lui est obligatoire de reconnaître et d'accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Ceci sont 5 bénéfices que l'on tire de cette règle très importante par laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé cet épître. La question qui pourrait se poser maintenant, c'est si les polythéistes reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et celui qui administre tout dans cet univers. Alors pourquoi donnait-il des associés à Allah subhanahu wa ta'ala? Et la réponse, on va la voir incha'Allah ta'ala dans la deuxième règle, dans l'assise de demain. Bi'idhnillah wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.